Bonjour mes frères et mes sœurs. Avez-vous vraiment lu sérieusement, attentivement le sermon sur la montagne? De quoi s'agit-il? Pourquoi le Christ a-t-il donné un sermon sur la montagne? Quel était son but? À qui parlait-il? Ce sont des questions qui sont importantes, mais avant tout nous devons savoir que le Christ avait un message. La Bible n'a pas deux messages. La Bible a toujours le même message. Ce message se révèle en même temps et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, alors que les gens n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu, l'accent était mis sur la lettre de la loi. Ainsi donc, lorsque vous prenez les 10 commandements, les 10 commandements, à l'époque, étaient seulement respectés par ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Donc, ils pouvaient seulement observer la lettre de la loi des 10 commandements. Tandis que le Nouveau Testament met l'accent sur le côté spirituel, voilà pourquoi le Christ, dans son sermon sur la montagne, met l'accent sur l'esprit de la loi. Mais cela ne veut pas dire que la lettre de la loi était abolie, pas du tout. Et maintenant, tâchez de comprendre, je vous prie. Le sermon sur la montagne constitue la base même des enseignements divins dans la Bible. Le sermon sur la montagne, c'est l'attitude spirituelle dont nous avons besoin pour avancer, pour arriver au but. Mais quel but? Le but, c'est d'arriver au royaume de Dieu. Vous verrez que, alors que nous étudions ensemble le sermon sur la montagne, le but, c'est-à-dire le royaume de Dieu, nous arriverons à ce but en observant les 10 commandements et dans la lettre et dans la loi. Et le sermon sur la montagne joue un rôle extrêmement important, je dirais même essentiel dans cette étude. Une chose est certaine, Dieu veut que nous puissions arriver au but. Et aussi, nous savons que dans ce bas monde, nous avons tous des épreuves, nous souffrons. Le sermon sur la montagne nous met l'accent, pour nous, du reste, sur le fait que même les affligés, même ceux qui souffrent, mais même ceux qui ont des difficultés très graves en ce moment, ont la promesse, la même promesse que les autres. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, prenez le temps d'étudier le sermon sur la montagne. Certes, vous l'avez lu, nous avons tous lu la Bible plusieurs fois, mais prenez le temps d'étudier profondément. Réfléchissez à toutes les sentences, c'est ce que s'appelle du reste les béatitudes, parce que les béatitudes qui commencent le sermon sur la montagne se composent de 8 sentences. 8 sentences qui nous mettent sur la voie d'arriver au but. Alors, commençons. Mais par où faut-il commencer? Avouez-vous, le sermon sur la montagne n'était pas donné à la foule même. Au commencement de ce sermon, Matthieu 5, nous voyons que le Christ était avec eux. Le disciple, ensuite la foule le suivait, ensuite il s'est assis sur la montagne, comme la Bible dit, et il a commencé à enseigner ses disciples. Ce sont donc ses disciples d'abord qui ont écouté, qui ont entendu et qui ont vraiment tâché de comprendre le sens du sermon sur la montagne. Le mot béatitude signifie félicité, signifie une bénédiction. Le fait est que, d'une façon générale, les gens ne se rendent pas compte que les commandements divins nous ont été donnés pour que nous puissions être joyeux, être honnêtes avec Dieu, apprécier tout ce qu'il nous donne. Alors, le Christ, je répète, dont 8 sentences qui constituent béatitude et qui commencent le sermon sur la montagne. Du reste, je répète, à travers la Bible, Dieu nous promet une chose. Les promesses données dans l'Ancien Testament sont les mêmes promesses qui figurent dans le Nouveau Testament. Avec l'exception peut-être que le Nouveau met l'accent sur l'esprit de la loi sans négliger la lettre de la loi. Ça, c'est extrêmement important. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprendrez pas la Bible. Vous savez, dans ma vie, j'ai parlé à beaucoup de gens. Dans ma vie, j'ai expliqué la Bible à beaucoup de gens. Dans ma vie, Lorsque je rencontre des gens, tous cherchent la vérité. Tous veulent savoir où se trouve la vérité. Tous veulent savoir comment comprendre la Bible. Eh bien, la Bible, c'est ici. La Bible, c'est dans les 10 commandements. La Bible, c'est dans le sermon sur la montagne. La Bible, c'est en même temps notre attitude envers Dieu, quelles que soient les circonstances. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 42, verset 21, nous lisons, « L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, c'est-à-dire son peuple, nous tous, publier une loi grande et magnifique. » Grande et magnifique. Mais de quelle loi parlons-nous? C'est la même loi, je répète, que l'Ancien Testament, les 10 commandements. Donc, Ésaïe dit que cette même loi sera amplifiée. Ça sera une grande loi magnifique. Donc, ça sera une loi spirituelle. Commençons maintenant avec Matthieu, chapitre 5, le sermon sur la montagne, qui commence, je répète, et je répéterai, par 8 sentences. Chacune des sentences a des conditions et une récompense, une promesse. Tâchez de comprendre, les promesses divines se résument en un seul mot, le royaume de Dieu. Notre but est d'entrer dans le royaume de Dieu. Notre but est d'arriver par le même chemin pour être un jour avec Dieu, pour vivre avec lui, avec le Christ, pour que nous puissions nous aussi, à notre tour, aider les autres, ceux qui ne comprennent pas la vérité aujourd'hui. L'Éternel Dieu, dans le sermon sur la montagne, était, je répète, assis avec les disciples, le Christ, et il leur parlait. Il leur parlait pour expliquer ce que c'est que la loi de Dieu, et il commence par le mot « heureux ». J'ai fait des sermons dernièrement sur « heureux l'homme ». Aujourd'hui, je vous parlerai ce que le Christ appelle dans le sermon sur la montagne par « heureux ». Ce mot « heureux » apparaît ici dans cette section en tant que béatitude. Je répète, le Christ a dit « heureux l'homme » ici, et il donne des conditions et en même temps il précise ce qu'il entend. Je répète une fois encore, heureux, béni soit, ou joyeux, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la signification de béatitude. Le Christ a dit au commencement de son sermon sur la montagne, je ris un peu parce que le commencement même est un peu difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Le Christ parle ici de ceux qui sont pauvres en esprit. Mais de quoi s'agit-il? Que signifie « pauvre en esprit » Le Christ a dit, Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit ». S'agit-il des gens qui sont déséquilibrés, des gens qui n'ont pas la pensée solide, des gens qui ne savent pas vraiment distinguer, comme la Bible dit, la droite de la gauche? Non. S'agit-il des gens qui n'ont pas la maturité? Non. Ici, l'expression « pauvres en esprit », c'est ceux qui sont humbles devant Dieu, qui ne luttent pas contre les lois divines, qui acceptent la parole de Dieu, qui acceptent les commandements de Dieu et qui en même temps gardent leur esprit dans une humilité parfaite. Et oui, le sermon sur la montagne commence par cette attitude d'avoir l'esprit pauvre, si vous voulez, mais c'est tout à fait différent de ce que les gens pensent. Voyez la promesse que Dieu donne. Il dit, « Car le royaume des cieux est à eux. » Quelle promesse! Je vous dis, c'est toujours la même promesse, la même gloire, le royaume de Dieu. Donc, si vous avez l'esprit humble, si vous avez dans chaque cas une attitude qui accepte ce que le Christ dit, qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas disputer, qui ne veut pas lutter contre la volonté, si Dieu vous dit quelque chose, mes frères et mes sœurs, dans la Bible, faites-le. Ce n'est pas toujours facile, je le sais, mais faites quand même votre part. Parfois, les commandements de Dieu, les décisions de Dieu, ne seront pas toujours conformes à vos propres désirs. Ça n'a pas d'importance. S'il y a un choix à faire, faites tous les sacrifices humainement parlant possible. Prenez ce que Dieu vous dit, même si votre corps entier, votre cœur entier, votre esprit entier est contre la décision de Dieu. Je vous ai dit, et je répète, la base de la vérité divine, c'est l'humilité. Donc le Christ, dans cette première sentence, dit « Heureux ceux qui sont humbles ». Dans Proverbes chapitre 15, verset 33, que je cite souvent, nous voyons, je dirais, le résumé, la base même, comment entrer dans le royaume de Dieu. Proverbes 15, 33, nous lisons « La crainte de l'Éternel, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu, enseigne la sagesse. La sagesse, mes frères et mes sœurs, vient de l'Esprit de Dieu. La sagesse, c'est de faire ce que Dieu vous dit de faire. La sagesse, c'est de savoir que notre compréhension des choses, notre façon d'agir, n'est pas toujours conforme à la façon divine de comprendre ou d'agir. C'est ça la sagesse. Voyez-vous, la sagesse humaine est contre l'intelligence humaine. Parce que la sagesse que nous recevons nous vient de Dieu. Alors Dieu nous dit que si nous avons cette sagesse, avec cette sagesse, nous pouvons toujours choisir la voie qui nous mène au but. Et cette voie est fondée, est basée sur l'humilité. Proverbe 15, 33. L'humilité précède la gloire. Répétez ce mot, cette phrase dans votre esprit. En toute chose, quelles que soient les circonstances, rappelez-vous, l'humilité précède la gloire. Vous direz, c'est quoi la gloire? Mais c'est toujours la même gloire. C'est notre entrée dans le royaume de Dieu. Le but, c'est ça, le but humain que Dieu nous a octroyé, c'est de pouvoir entrer un jour dans son royaume. Donc, dans ce sermon sur la montagne, les 8 sentences que le Christ nous donne, dans chacune de ces sentences, vous verrez la même chose. Le royaume de Dieu décrit d'une façon ou d'une autre, mais c'est toujours le même but. Le Christ nous promet donc une récompense fantastique si nous sommes humbles à ses yeux. Il dit, le royaume des cieux est à nous. Alors, où en êtes-vous à cet égard? Quelle est votre attitude? Lorsque vous avez des conversations avec des gens, lorsque vous leur parlez, vous avez cette attitude vraiment que le Christ décrit? Est-ce que vraiment vous êtes humble? Ou bien vous vous vantez? Ou bien vous êtes orgueilleux? Ou bien vous pensez connaître les choses mieux que Dieu? Je vous pose la question. En nouveau, Proverbe chapitre 29, verset 23, nous lisons l'orgueil. Voyez-vous, ce sont des opposés. L'orgueil est l'opposé en ce qui concerne l'humilité. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Regardez-moi ça. Donc, si vous êtes orgueilleux, et si vous vous élevez, cette même tendance vous abaisse. L'orgueil vous abaisse. Mais dites-vous, celui qui est humble d'esprit, c'est la même chose que nous venons de lire, obtient de la gloire. La gloire du royaume. Je répète, mes frères et mes sœurs, la grande différence entre la façon divine de raisonner, de penser, c'est de nous rendre, de nous faire comprendre que nous ne sommes rien. C'est que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons vient de lui. Continuons. Notez également à cet effet ce que Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 61, verset 3. Il dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je prends une partie de cet enseignement. Autrement dit, esprit abattu, pauvre en esprit, humilité. Ce sont des phrases qui sont synonymes et qui apparaissent souvent dans la Bible. Comparez cela avec Ésaïe 66. Là encore, c'est intéressant parce que, voyez-vous, je répète, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se complètent, ne se contredisent pas. Le Nouveau Testament met l'accent sur l'esprit de la loi sans pour autant éliminer la nécessité d'obéir à la lettre de la loi. Ésaïe 66, verset 2. « Toutes ces choses, déclare Dieu, ma main les a faites. et tout ont reçu l'existence de l'Éternel, voici sur qui je porterai mes regards. Voyez-vous, c'est la même chose. C'est le sermon sur la montagne en quelque chose et dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Voilà la signification humble en esprit. Ceux qui souffrent, l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Je vous ai dit et je répéterai, craindre la parole de Dieu signifie observer les commandements de Dieu, et dans la lettre, et dans l'esprit. Et maintenant, prenons la deuxième sentence dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5, verset 4. Ça fait plaisir, ça, parce que tout d'un coup, vous voyez une promesse à vous, à moi. Car souvent, nous avons une tendance de nous plaindre en quelque sorte. Nous sommes affligés. Affligés par les circonstances, affligés par notre nature humaine, affligés par tout ce que nous voyons peut-être autour de nous. Le fait est que Dieu dit, voici maintenant la deuxième sentence, heureux les affligés, car ils seront consolés. Mais alors, vous avez besoin de quoi? Si Dieu vous promet de vous consoler, pourquoi vous faire du souci? Si Dieu vous dit que vous serez heureux lorsque vous aurez des souffrances, en quelque sorte, et qu'il vous donnera la consolation. Mais de qu'est-ce qu'on entend par affligé? Si vous commettez des crimes, si vous commettez des péchés, évidemment, ce n'est pas la solution que Dieu dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Non, pas du tout. C'est lorsque vous faites quelque chose, et nous sommes tous humains, nous faisons des fautes, nous souffrons. Mais lorsque nous sommes affligés, surtout pour le Christ, à cause du Christ, dans ces cas-là, nous avons la garantie 100% que Dieu nous aidera. Il nous consolera. Essayez-le. Lorsque vous avez un problème, mettez-vous à genoux. Demandez à Dieu son aide. Et il vous donnera la consolation nécessaire. Parfois par un ami. Parfois par la Bible. Parfois par les circonstances. Mais ayez cette certitude, cette assurance que Dieu vous console. Souvent dans la Bible, mes frères et mes sœurs, Dieu est appelé le Dieu de consolation. Du reste, j'ai dit à moi ce que l'apôtre Paul déclare, car l'apôtre Paul a beaucoup souffert et il a dans ses écrits des phrases magnifiques. Il dit par exemple que Dieu vous aime. Il dit par exemple que si vous souffrez, vous serez heureux. Il dit par exemple que nous qui souffrons, nous apprendrons à mieux nous approcher de Dieu. Et dis, soyez joyeux. Comment puis-je être joyeux lorsque je souffre? Voilà la réponse. Parce que Dieu me console. Puis Dieu me donne la force dont j'ai besoin. Vous savez, Paul nous a beaucoup, beaucoup enseigné à ce sujet. Je viendrai dans quelques minutes en cela. Mais Paul nous dit que si nous souffrons comme il a souffert, si nous tournons bon, si nous avons les yeux sur le Christ, Dieu, le Christ, nous consoleront. Qu'est-ce que c'est la consolation? C'est quoi exactement? Avez-vous pris le temps de savoir ce que c'est que consoler? Comment consolez-vous quelqu'un qui vient de perdre un ami ou une amie? Comment consolez-vous quelqu'un qui est malade? Comment consolez-vous quelqu'un qui n'a plus rien d'autre à espérer dans la vie, et même, je dirais, il veut mourir. Comment consolez-vous? C'est un art, mais cet art vient de Dieu. Je dirais que la première chose que vous devez faire pour consoler quelqu'un, d'abord, soyez sûr que vous comprenez la situation. Ne donnez pas raison à quelqu'un qui n'a pas raison. Un ami, un vrai ami vous dit ce qui ne va pas avec vous et non pas nécessairement vous consoler avec des paroles encourageantes tout en cachant vos fautes, pas du tout. Dieu nous aime, Dieu veut que nous puissions comprendre nos péchés, nous en repentir et à ce moment-là, nous avons la consolation qu'il nous promet. Ayez ça en tête, je vous prie. Vous avez des amis, certes. Vous avez des ennemis, malheureusement, oui. Vous avez des amis qui sont à peu près amis. Si vous choisissez vos amis, ceux qui sont proches de vous. Lorsque vous avez besoin d'eux, soyez sûr que lorsque vous vous adressez à eux, ils vous diront ce qui est juste, non pas à vos yeux, mais en réalité. Ce sont des gens qui doivent être guidés par Dieu et qui doivent savoir comment consoler. Je me rappelle un jour, j'étais avec une personne, c'est en Belgique, qui était extrêmement abattue, qui voyait tout en noir, tout. Aucune parole de ma part ne pouvait la consoler. Vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis assis à côté de cette personne et je n'ai rien dit. Comme les amis de Job, pendant une semaine, ils ont regardé le souffrir et puis après, ils n'ont rien dit. Alors, je n'ai rien dit pendant plusieurs, je ne sais pas, minutes ou une heure, je ne sais pas, franchement. Puis après, il me regarde et me dit, « Alors, vous dites rien ?» J'ai dit non. Je dis pourquoi? Je dis, que voulez-vous que je vous dise? Parce que ce que je vous dirai, vous allez dire non, vous allez vous opposer. Vous savez quoi? Il a eu un petit sourire. Je dis, vous avez raison. Je dis, bon, maintenant que je vous dites que j'ai raison, je vous dirai ce qui ne va pas avec vous. Donc, c'est une façon, je dirais pas que cette façon va réussir toujours, mais tâchez de demander à Dieu la façon de consoler quelqu'un. Parfois, vous mettez votre bras autour de la personne. Parfois, vous lui tenez la main. Parfois, vous vous taisez, comme j'ai dit. Ou alors, parfois, vous prenez la Bible et vous commencez à... Tout dépend. Ça, c'est la sagesse. Demandez la sagesse à Dieu avant de commencer à consoler quelqu'un. Notez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7. C'est beau, c'est vraiment... Regardez voir combien de fois dans ce passage le mot « consolation » ou le verbe « consoler » apparaît. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7. Voilà un homme qui a souffert, voilà un homme qui avait besoin de consolation, voilà un homme qui a été rejeté par ses collègues. Il dit, verset 3, 2 Corinthiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. » Mes frères et mes sœurs, je répète, une fois encore, lorsque vous étudiez la Bible, ne lisez pas la Bible, je vous prie. Méditez la Bible. Étudiez la Bible. À cette phrase seule, arrêtez-vous. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que c'est le Dieu de toute consolation. C'est le Père des miséricordes. Tâchez d'apprendre ce que c'est que miséricorde. Tâchez d'apprendre comment vous-même vous pouvez être miséricordieux. Nous allons voir dans quelques instants. Et tâchez d'apprendre ce que c'est que la consolation. Parfois, la consolation fait mal. Si, c'est la vérité. Mais parfois, et toujours, je dirais, la consolation, si elle est bien donnée, vous donne le courage d'aller de l'avant. Je continue. Verset 4, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Le Dieu qui nous console dans toutes, galvassement toutes, nos afflictions. Pas seulement de temps en temps, mais toutes. Et nous avons toujours tous des afflictions, chaque jour. Il dit dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, galvassement, combien de fois ce mot consolation apparaît dans ce passage, la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions, voilà, nous puissions quoi? Consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. En ce bas monde, on a besoin d'amis. On a besoin de gens qui nous comprennent. On a besoin de gens que nous pouvons aider par notre consolation. Voilà pourquoi, lorsque Dieu nous aide par sa consolation, nous devons nous-mêmes faire notre part pour consoler quelqu'un qui est dans de l'affliction. Verset 5. Toujours de Corinthiens 1, verset 5. « Car de même que les souffrances du Christ abondent, et le Christ a souffert, le Christ a énormément souffert, il a été persécuté, il a été trahi, il a été crucifié. » Ça vous touche, le cœur. Le Christ qui a connu les souffrances, il dit, car de même que les souffrances du Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Ensuite, l'apôtre Paul nous dit au verset 6, c'est exactement ce que je viens de vous dire, ce que la Bible dit, les affligés. Nous sommes parfois, et je dirais même souvent, affligés. Donc il dit, nous sommes affligés, c'est pour notre consolation. Autrement dit, c'est à ce moment-là que nous tournons vers Dieu et nous voyons sa consolation. Et pour votre salut, dit-il. Voyez-vous, c'est toujours la même chose. La consolation divine nous mène vers le salut. Et nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, verset 6, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Il est facile de voir, de dire à quelqu'un, écoutez, c'est facile, soyez donc optimiste, c'est pas grave. Mais lorsque ça arrive à vous, c'est tout à fait différent. Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, que nous devons nous-mêmes faire la même expérience que nous voulons que les autres fassent. Autrement dit, à quoi bon de dire à quelqu'un ce qu'il faut dire si vous-même, vous ne le faites pas. Ensuite, l'apôtre Paul termine ce passage en disant, au verset 7, « Et notre espérance à votre égard est ferme. » Il n'y a pas, on ne chancelle pas. « Que nous savons que si vous avez part aux souffrances, voyez-vous, les affligés, vous avez aussi part à la consolation. » La consolation ici peut être synonyme à la gloire à venir. Eh oui, mes frères et mes sœurs, être affligé pour le Christ, souffrir pour le Christ, est une partie de la vie pour chacun de nous, surtout pour nous qui sommes chrétiens. Soyons forts, soyons fermes, soyons positifs, sachant que Dieu est toujours là pour nous consoler. Ensuite, le verset suivant, maintenant je reviens à Matthieu 5, Matthieu 5, 5, là, nous avons un petit problème. Parce que les mots changent. Voyez-vous, la Bible que vous avez, c'est une traduction. La Bible, le Nouveau Testament, a été écrit au début en grec. Le mot grec, la langue grecque a évolué. Les mots français ont évolué. Il y a 500 ans, le français, alors qu'on parlait le français à cette époque-là, était tout à fait différent du français d'aujourd'hui. Prenez un texte qui était écrit il y a 500 ans en français, vous ne comprendrez pas. Le fait est que ici, dans le sermon sur la montagne, il y a un mot qui vient tout d'un coup en français moderne, qui n'a pas le même sens qu'il y avait au début lorsque le Christ a donné en grec ce passage. Je répète, il dit, verset 5, Matthieu 5, verset 5, « Heureux de débonnaire ». Voilà. Ce mot débonnaire aujourd'hui n'a pas le même sens qu'il avait il y a plusieurs années, surtout au début. Débonnaire, s'agit des gens qui ont une bonne attitude. Débonnaire signifie en même temps être positif. En même temps, ceux qui ont une attitude forte et qui savent comment supporter les souffrances. Je sais que dans certaines autres traductions, le mot débonnaire est traduit par humble. C'est ça, ce n'est pas exactement ça. Je dirais que c'est l'opposé de l'orgueil. C'est l'opposé du caractère, je dirais, méchant. Débonnaire signifie bon, doux de caractère. C'est ça, débonnaire. Il dit, heureux donc les débonnaires. Pourquoi? Quelle sera leur récompense? Ils hériteront la terre. La terre, mais qu'est-ce qu'on fait de cette terre? Eh bien, cette terre sera le centre, la base même, le lieu où le royaume de Dieu s'établira en fin de compte. Donc, c'est une promesse fantastique qui signifie que nous serons dans le royaume de Dieu. Nous hériterons la terre avec le Christ, avec Dieu le Père, et nous régnerons avec eux. Voilà ce que c'est que les récompenses des débonnaires. C'est contre l'orgueil. c'est un caractère doux, un caractère gentil, un caractère patient. Tout ça, c'est des bonheurs, voyez-vous. Humble en même temps, certes. Notre récompense, si nous sommes des bonheurs, sera donc hériter la terre. La terre, les cieux, tout ça, voyez-vous, c'est des synonymes. Je vous ai dit, à travers ce sermon, ce sont des mots différents qui décrivent la même chose. Le royaume, la gloire, la vie éternelle. Dans Psaume chapitre 37, nous voyons cette même promesse. Psaume 37, verset 11. Les misérables possèdent le pays. C'est l'Ancien Testament, d'accord. C'est Psaume, d'accord, mais c'est la même chose. Voilà les débonnaires. Ici, c'est indiqué par les misérables. De ce sens-là, il dit, « Ils jouissent abondamment de la paix. » Est-ce le cas? Jouissez-vous de la paix abondamment. Si vous êtes débonnaires dans le sens biblique, oui, vous jouirez de la paix. Verset 29, psaume 37, verset 29, « Les justes posséderont le pays. » C'est la même promesse. « Ils y demeureront à jamais. » Notez-le. Notez-le à jamais. Qu'est-ce que signifie « à jamais » ?« À jamais » signifie « éternellement ». Voilà la promesse divine. Nous hériterons la terre, nous hériterons la récompense à jamais ou éternellement. Alors, mes frères et mes sœurs, où en êtes-vous jusqu'à maintenant? Je vous ai parlé de quelques sentences en ce qui concerne le sermon sur la montagne. Où en êtes-vous à cet égard? Est-ce que vous pouvez dire que vous souffrez et que vous comprenez la raison de vos souffrances? Pouvez-vous dire que vous êtes joyeux malgré le fait que vous soyez affligé? Pouvez-vous dire que vous êtes prêt à sacrifier tout, s'il le faut, pour entrer dans le royaume de Dieu? Pouvez-vous dire que vous croyez en Dieu? Vous êtes sûr que Dieu dit ce qu'il entend? Vous êtes sûr que Dieu ne vous abandonne pas? Vous savez, dans Hébreux, je pense, c'est chapitre 12, c'est marqué, « Dieu, le Christ, est avec moi, je n'aurai peur de rien. » C'est ça, c'est cette attitude. Si vous avez cette attitude, vous n'aurez peur de rien et vous serez donc heureux. Continuons, toujours avec le sermon sur la montagne ou bien les béatitudes. Matthieu 5, verset 6. Là, c'est une autre vérité, la même vérité qui apparaît sous une forme différente. Laissez-moi vous poser une question avant de venir à ce verset 6. Le matin, lorsque vous vous levez, à quoi pensez-vous? Le soir, lorsque vous vous couchez, à quoi pensez-vous? Dans la journée, lorsque vous avez un travail à faire, à quoi pensez-vous? À votre travail ou à autre chose? J'ai souvent dit, pensez à tout ce que vous faites lorsque vous faites quelque chose. Mais d'une façon générale, ne laissez pas votre esprit vagabonder. Pensez à Dieu, à sa bonté, à la création, à la beauté de la création. Donc, ayez soif, ayez faim de Dieu, de sa parole. Et la parole de Dieu, comme nous savons, nous est donnée dans la Bible. Voilà pourquoi maintenant, je prends Matthieu 5, verset 6, la sentence prochaine. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Notez encore, lorsque vous avez faim, c'est pas facile, vous savez. Moi, j'aime bien manger, surtout de bonnes choses. Et quand j'ai faim, ça fait mal à l'estomac. Et j'aime bien boire, normalement, de bonnes choses. Mais le fait est que si nous avons cette soif, cette faim physique, nous devons aussi avoir la soif et cette faim spirituelle. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous chaque jour, vous avez faim et soif de la justice divine. Si vous n'étudiez pas la Bible chaque jour et que vous l'appréciez vraiment, vous avez faim et soif. Voilà pourquoi le Christ dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, voyez-vous, justice, non pas physiquement parlant seulement, de la justice. De quelle justice parlons-nous? La justice humaine, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Il est question de la justice divine. Cette justice divine paraît dans la parole de Dieu. Notez-le. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la promesse? Eh bien, quand vous avez faim et soif, qu'est-ce qui se passe? Car ils seront certes rassasiés. Eh oui, Dieu nous promet de nous rassasier lorsque nous avons faim et soif. En ce moment, hélas, il n'y a pas beaucoup de justice. En ce moment, hélas, même les tribunaux, même le gouvernement, tout ça s'est fondé sur la civilisation humaine. Nous avons besoin d'apprendre ce qu'est la justice divine. Vous savez, nous autres ministres, lorsque nous conseillons les gens, dis-je, la première chose que nous disons, écoutez, vous avez des difficultés, vous avez des moments difficiles, prenez le temps d'étudier la Bible. Ayez fait soif de la Bible. Chaque chrétien, un vrai chrétien, doit étudier la Bible chaque jour. Chaque vrai chrétien doit prendre sa Bible, mettre en pratique ce qu'il apprend, et en même temps, être sûr qu'il ne se trompe pas par de vains raisonnements. Le Christ a dit, voyez-vous, que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et c'est vrai. C'est Jean 6, 53. C'est ce qui est marqué. Le Christ est notre nourriture. Ayez foi en lui. Étudiez sa parole. Méditez sa parole. Faites de sorte que cette parole soit votre nourriture spirituelle, comme la nourriture physique que vous prenez. Psaume, chapitre 119, verset 172. C'est une autre façon de dire la vérité que je viens de vous expliquer. David dit que ma langue chante ta parole. Là encore, que signifie cela? Autrement dit, lorsque vous parlez, lorsque vous vous servez de votre langue, que ce soit avec joie, que soit la parole de Dieu, qui est toujours bonne, c'est une promesse fantastique, car tous tes commandements sont justes. Voilà ce que c'est que la justice divine. Tous les commandements de Dieu sont justes. En êtes-vous sûr? Pouvez-vous vraiment affirmer la même chose avec certitude, en disant que oui, c'est vrai, je sais, j'en suis convaincu. Nous avons soif. Je répète, physiquement parlant, nous avons faim. Physiquement parlant, nous devons avoir autant de soif et faim, si ce n'est plus en ce qui concerne la vérité divine, la justice divine. Et alors, Dieu va nous rassasier. C'est bon d'être rassasié, surtout si c'est Dieu qui nous rassasie. Là, je peux encore passer plus de temps, mais il faut que j'aille de l'avant avec le reste de cette béatitude. La béatitude suivante se trouve dans Matthieu 5, verset 7. Un sujet très important, j'en ai parlé plusieurs fois et j'en parlerai encore plusieurs fois. Matthieu 5, verset 7, voyez cette simple recommandation est pourtant extrêmement difficile à mettre en pratique. Car nous sommes charnels, nous avons l'esprit charnel, nous sommes jaloux, nous sommes, je dirais, nous envions les autres. Nous ne voulons pas pardonner aux autres. Nous voulons que les autres nous pardonnent, mais nous ne voulons pas pardonner aux autres. Voilà pourquoi Matthieu 5, verset 7 nous dit « Heureux les miséricordieux ». Il y a quelques instants, je vous ai cité que Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est plein de miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est quoi exactement être miséricordieux? C'est de pardonner aux autres. Comme vous vous pardonnez à vous-même, pardonnez aussi aux autres qui vous ont offensé. C'est là un trait de caractère difficile. Nous pouvons facilement voir les fautes auprès des autres. C'est très facile. Et parfois même, nous nous vantons nous-mêmes en disant « Moi, je ne suis pas comme les autres, humainement parlant. » Parce que nous pouvons voir les faiblesses des autres, et nous ne voyons pas nos faiblesses à nous. De ce sens-là, nous ne sommes pas miséricordieux. Si nous nous pardonnons à nous-mêmes, nous devons aussi nous pardonner ou pardonner aux autres. Regardez-moi ce que la promesse divine dit dans ce chapitre. Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, quelle est la récompense? Car ils obtiendront la miséricorde. Sans la miséricorde divine, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas possible. Notez-le. Matthieu 6, verset 12. Verset 12, 14 et 15. Le Christ a dit, pardonne-nous nos offenses dans la prière modèle qu'il nous a donnée, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Regardez-moi, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Allez dans une église chrétienne. D'une façon générale. Vous voyez les gens qui sont à genoux, qui répètent cette prière, la prière modèle que le Christ a donnée. Ils répètent, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il y a beaucoup de chances qu'ils ne mettent pas en pratique cette promesse qu'ils font devant Dieu. À quoi bon de dire une chose, à quoi bon de répéter une prière si nous ne faisons pas ce que nous disons et ce que Dieu nous dit de faire? Nous devons pardonner les offenses aux autres pour que Dieu nous pardonne nos offenses et alors nous obtiendrons la miséricorde divine. Verset 14, Matthieu 6. Le Christ a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Voilà une promesse absolument certaine. Si Dieu me pardonne, je peux être sûr d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le Christ répète au verset 15, toujours Matthieu 6, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, voilà la condition, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses non plus. » Vous savez, mes frères et mes sœurs, ce qui est difficile dans la Bible, ce n'est pas ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que vous comprenez et vous ne voulez pas mettre en pratique. Eh oui, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été sincères et ont dit, écoutez, moi je ne comprends pas la Bible. Ma réponse est toujours la même. Prenez cette Bible et lisez ce que vous comprenez et mettez en pratique ce que vous comprenez. Dès ce moment-là, vous comprendrez le reste de la Bible, mais le fait est que la plupart du temps, nous ne comprenons pas la Bible parce que nous ne voulons pas comprendre ce qui est facile. Si cette chose va à l'encontre de notre nature humaine, de nos désirs humains. Voilà pourquoi on ne comprend pas la Bible. Parce que la Bible nous dit des choses qui ne nous plaisent pas humainement parlant. La lecture de la Bible est simple. Ce que Dieu dit est simple. À condition que nous mettions en pratique ce qu'il nous commande de faire. Sans la miséricorde, je répète, comme la Bible dit, comme le Christ dit, nous ne pouvons pas hériter la vie éternelle. Ne cherchez pas vengeance. Ne cherchez pas à critiquer. Si quelqu'un vous a fait du tort, allez lui dire, écoute, je suis sûr que j'ai ma part de souffrance, de responsabilité. Pardonne-moi ma part. Vous serez surpris des résultats. Si vous reconnaissez d'abord vos fautes, votre part, alors le pardon de l'autre côté sera beaucoup plus facile à obtenir. Je dirais même, j'irai plus loin. Si quelqu'un ne vous pardonne pas, quelles que soient vos souffrances ou ses souffrances, pardonnez-lui quand même ses péchés. Et c'est ça qui compte. Dans Psaume chapitre 86, verset 5, voyez encore une autre façon d'expliquer cette même phrase, cette même promesse. Psaume 86, verset 5. « Car tu es bon, Seigneur. » On parle du Christ. Et on reconnaît que le Christ est bon. « Car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. » Voilà ce que c'est que la bonté divine. « Tu es bon, Seigneur, car tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Voilà la condition. Invoquez Dieu. Demandez-lui pardon, car Dieu vous pardonne. La miséricorde et le pardon font partie du caractère divin. Eh oui, c'est absolument ça. Soyez comme Dieu, soyez miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Soyez bon envers tout le monde. Pardonnez. Psaume, chapitre 118, versets 1 à 4. Et aussi verset 22, peut-être, je verrai. Regardez voir. Psaume 118, 1 à 4. Louez l'Éternel. Pourquoi ? Car il est bon. On a parlé de bonté. On a parlé de la miséricorde. Dieu est bon. Louez-le, c'est-à-dire remerciez-le. Louez, dans la Bible, signifie remerciez-le. Soyez reconnaissant que Dieu soit bon. Car sa miséricorde durera toujours. Votre miséricorde, la mienne, ne dure pas toujours. Nous ne sommes pas miséricordieux comme Dieu l'est. Verset 3. Que la maison d'Aaron dise « Sa miséricorde durera toujours ». Autrement dit, les ministres, les prêtres. Verset 4. Que ceux qui craignent l'Éternel, vous, moi, nous craignons l'Éternel parce que nous obéissons à ses commandements. Car il est bon, dit-il, car sa miséricorde durera toujours. Voilà où nous en sommes. Les béatitudes, comme vous pouvez voir, sont des promesses fantastiques. Ce sont des promesses absolument vraies qui nous donnent la force dont nous avons besoin, qui nous donnent l'encouragement dont nous avons besoin, qui nous donnent l'envie de continuer à vivre malgré les souffrances, malgré les persécutions. Et maintenant, continuons encore. Revenons à Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux, ça commence, heureux, autrement dit, béni soient ceux qui, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi ? Car ils verront Dieu. Regardez-moi cette promesse. C'est quoi un cœur pur ? Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de prétendre quelque chose qui ne soit pas vrai. Il n'y a pas vraiment de saleté dans le caractère humain si vous avez un cœur pur. Si vous êtes miséricordieux, vous avez un cœur pur. Si vous savez consoler, vous avez un cœur pur. Si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous avez un cœur pur. Si vous n'avez pas des choses cachées, d'orgueil, vous avez un cœur pur. Et quelle sera la récompense? Vous verrez Dieu. Dans la Bible, il est souvent question de mensonges. Nous autres humains, nous mentons à tout bout de champ. Eh oui, pour nous, un mensonge n'est pas grave si ça ne fait pas de mal aux autres, disons-nous. Selon la Bible, un mensonge est un mensonge. Il n'y a pas de mensonges blancs ou de petits mensonges, non. Un mensonge est un mensonge. Si vous avez des mensonges dans votre cœur, vous n'avez pas un cœur pur. Il n'y a pas de fraude. Je dis souvent, lorsque les gens me demandent conseil pour un mariage, avant de vous marier, je dis, avouez tout entre vous deux, l'homme et la femme, et qu'il n'y ait rien de caché, pour qu'après le mariage, on ne révèle pas des choses qui étaient cachées. Car dans ce cas-là, vous n'avez pas de cœur pur. Si tout est dit, tout est avoué, tout est pardonné, vous avez de l'avant, vous pouvez aller de l'avant avec force, avec courage, avec détermination, avec la compréhension et la connaissance qu'il n'y aura pas de regret. La même chose dans vos rapports avec les autres, même en dehors du mariage. Si vous avez un vrai ami, soyez amis et confessez-vous les fautes les uns des autres, mais lorsque vous lui parlez, vous savez que vous pouvez compter sur cet ami. C'est ça le cœur pur. Enfin, je peux en faire un grand serment, mais vous comprenez ce que j'entends. Si nous avons cette attitude un cœur pur. Et c'est rare, c'est très rare d'avoir un ami, un conjoint, une conjointe qui est vraiment 100% un cœur pur. Car nous sommes tous humains, nous sommes tous charnels. Mais quelle sera notre récompense si nous avons un cœur pur? Une promesse incroyable, car ils verront Dieu, Dieu le Père. Imaginez, aujourd'hui, beaucoup de gens voudraient voir le Père, moi aussi. Mais nos yeux physiques ne peuvent pas voir le Père, ni le Christ, comme il est maintenant. Un jour, nous verrons le Père, un jour, nous verrons le Christ, nous leur parlerons. Imaginez. Alors, quel est le prix à payer? Ayez un cœur pur. Autrement dit, ce que le Christ nous demande, ce n'est rien à comparer à la promesse formidable qu'il nous fait. Et cette promesse n'est pas difficile parce que cette promesse nous rend heureux. Nous verrons Dieu. Revenons à nouveau au psaume. Car, je répète, souvent dans la Bible, vous verrez les mêmes promesses données et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament d'une façon un peu différente, car dans l'Ancien Testament, nous comprenons le sens physique à la lettre des commandements, tandis que je répète et je répéterai, dans le Nouveau Testament, nous comprenons et le sens à la lettre et le sens en ce qui concerne l'esprit. Notez-le, psaume, on parle de pur de cœur, d'esprit. Psaume 24, versets 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Autrement dit, la montagne de l'Éternel, c'est le gouvernement de Dieu. Qui sera dans le gouvernement de Dieu? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse, celui qui a les mains innocentes, voilà, le cœur pur. Verset 4, celui qui a le cœur pur. Voyez-vous, c'est la même promesse. La promesse dans le sermon sur la montagne réapparaît dans Psaume 24, verset 4. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà ce que c'est que d'avoir un cœur pur. Tout ça, c'est beau, mes frères et mes sœurs. Tout ça, c'est simple. Et pourtant, c'est difficile car la nature humaine s'oppose à ce qui est spirituel. Et si nous sommes donc, si nous venons dans cette catégorie, quelle est la récompense? Verset 5, toujours psaume 24. Verset 5, il obtiendra la miséricorde de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Dieu est un Dieu de miséricorde, je le répète. Il veut que nous soyons miséricordieux. Si nous avons le cœur pur, nous sommes miséricordieux et nous faisons preuve de miséricorde. Revenons maintenant à nouveau à nos béatitudes. J'en viens presque à la fin. La promesse suivante, c'est-à-dire Matthieu 5, verset 9, concerne la paix. C'est quoi la paix? Vous savez, mes frères et mes sœurs, depuis le commencement, l'être humain n'a jamais connu de paix. Adam et Ève n'ont pas connu la paix parce qu'ils ont Adam et Ève n'ont pas connu la paix car ils ont désobéi à Dieu. Ils sont détournés de lui. La paix, c'est lorsque vous êtes en harmonie avec Dieu, lorsque vous vivez selon les commandements de Dieu. Je dis souvent, et je pense que c'est le cas, je ne peux pas garantir, il paraît que j'ai entendu du reste, il paraît que depuis le commencement de l'histoire humaine, nous avons eu environ 16 000 guerres sur cette terre. 16 000 de petites et de grandes, des guerres. Mais écoutez, nous n'avons même pas eu 6 000 ans d'existence humainement parlant, nous avons eu 16 000 guerres. Où est la paix? La paix dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui plaise à eux. C'est quelque chose qu'eux, ils voudraient avoir de façon à ce qu'eux, ils soient contents. Ce n'est pas ça que le Christ dit ici. Notez cette promesse. heureux ceux, c'est pas marqué qui ont la paix, ceux qui procurent la paix. Il y a une grande différence entre procurer la paix et vivre dans la paix. Certes, nous devons vivre dans la paix, mais en même temps, nous devons procurer la paix. Quelle sera notre récompense? C'est bon parce que ça apparaît d'une autre façon, mais c'est la même récompense. Car, dit-il, ils seront appelés fils de Dieu. Toutes les récompenses qui nous sont promises se centrent sur la même vérité. Nous verrons Dieu, nous serons dans son royaume, nous serons dans sa famille. Si nous donc procurons la paix, nous serons fils de Dieu. Le Christ, le fils de Dieu, pour ainsi dire, a procuré la paix. Il est venu parler de la paix. Il a, chaque fois qu'il était avec les gens, il a consolé les gens de façon à ce qu'ils pouvaient créer la paix autour de lui. Et pourtant, les gens l'ont persécuté, les gens l'ont blâmé. En toutes occasions, il a tenu son calme, il a fait preuve d'une paix qui est contagieuse, pour ainsi dire. C'est une condition absolue pour être dans le royaume de Dieu, procurer la paix. Mes frères et mes sœurs, posez-vous la question. Que vous soyez seul ou marié, que vous soyez pauvre ou riche, que vous soyez jeune ou âgé, est-ce que vous procurez la paix? Chaque occasion qui se présente devant vous, est-ce pour que vous ayez satisfaction pour vous-même, pour votre nature charnelle, ou bien pour créer la paix? Souvent, en ce moment-monde, vous souffrirez pour une chose qui ne vous paraîtra pas comme étant juste, mais souffrez pour procurer la paix. Ce faisant, vous serez appelé fils de Dieu. Ce n'est pas facile, non, mais avec Dieu, tout est possible, et c'est ça qui compte, et c'est Dieu qui nous donne la force pour aller de l'avant. C'est une condition absolue pour entrer dans le royaume de Dieu. Psaume, on revient toujours à l'Ancien Testament. Psaume 119, verset 165. C'est la même promesse. Notez-le. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Je ne peux pas dire que aucun signifie aucun dans ce sens, parce que nous sommes toujours charnels. Nous avons toujours l'esprit charnel, voilà pourquoi des malheurs nous arrivent. Mais si nous faisons notre part, si nous procurons la paix, si nous vivons dans la paix, aucun malheur ne nous arrive dans ce sens-là. Vous savez, c'est une promesse fantastique. Mais, je répète, regardez autour de vous et dites-vous à vous-même, est-ce que je procure la paix? Lorsque vous êtes dans une situation, n'importe laquelle, et que vous devez même admettre quelque chose, une vérité toujours, qui vous ferait du tort ou bien du mal, faites-le parce que vous voulez procurer la paix ou bien vous voulez discuter. Vous voulez allonger la discussion. Comme la Bible, comme le Christ a dit, tournez l'autre joue. Et oui, ce faisant, vous procurez la paix. Revenons à nouveau à l'Ancien Testament. Ésaïe 32, verset 17. L'œuvre de la justice, c'est quoi? Sera la paix. Prenez l'œuvre, le résultat, justice divine, sera la paix. Autrement dit, si vous mettez encore en pratique les commandements de Dieu, vous allez procurer la paix autour de vous. Le fruit de la justice, le repos, la sécurité pour toujours. Autrement dit, si vous procurez la paix, vous aurez la justice, le repos, sécurité pour toujours. C'est ce que vous aurez comme vie, c'est ce que j'aurai comme vie dans la vie éternelle. Avez-vous jamais remarqué dans la Bible que le Christ, après sa résurrection, sa mort et sa résurrection, quelle a été la première chose qu'il a dite? C'est intéressant. Je ne sais pas, j'aurais pas le temps de citer tout, mais le thème va vous donner quelques exemples. Par exemple, Luc 24, verset 36. Il se présente devant les disciples. La première chose qu'il dit, la paix soit avec vous. Parce que les disciples étaient troublés. Les disciples ne savaient pas ce qui se passait. Il dit, la paix soit avec vous. Le soir de ce jour-là, du premier jour-là, les portes étaient fermées, le Christ arrive. La première chose qu'il dit aux disciples, la paix soit avec vous. Jean 20, verset 21. À nouveau, Jésus apparaît devant les disciples. Il dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, dit-il, moi aussi je vous envoie. La paix soit avec vous. C'est cette promesse qui constitue la base même de la tranquillité d'esprit. Jean chapitre 20, verset 26. Toujours la même histoire, toujours la même circonstance. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il a dit? La paix soit avec vous. C'est cette promesse divine dont nous avons besoin. Il faut que notre présence partout procure la paix autour de nous. Le monde où nous vivons, mes frères et mes sœurs, ne va pas durer longtemps. Nous avançons rapidement vers le millénium, vers le retour du Christ. Le Christ viendra pour établir la paix sur cette terre, pour établir le royaume de Dieu sur cette terre. C'est alors que nous aurons la paix mondiale, la paix universelle. Je termine ce sermon donc avec cette promesse. Regardez ce que l'Ancien Testament, comme le Nouveau, nous dit en ce qui concerne le monde à venir. C'est-à-dire le monde qui sera sur cette terre lorsque le Christ sera en charge, lorsque le Christ sera en charge de tous les gouvernements. Michée, chapitre 4, versets 1 à 4. Michée 1 à 4. C'est une promesse divine. C'est l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Notez-le. Il arrivera dans la suite des temps, Michée 4, versets 1 à 4, que la montagne, c'est-à-dire le gouvernement de la maison de l'Éternel, sera fondée sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire des autres gouvernements, qui s'élèvera au-dessus des collines, toutes les autres administrations, et que les peuples s'y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, afin qu'il nous enseigne ses voies. Voilà comment on procure la paix. Et que nous marchions dans ces sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole d'Éternel. Le Christ sera le juge. Regardez voir ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le Christ n'est pas le juge parce que les gens le rejettent. Parce que les gens ferment la Bible pour ne pas la lire. Parce que les gens veulent agir à leur guise. Mais lorsque le royaume de Dieu sera sur cette terre, le Christ sera le juge d'un grand nombre de peuple, l'arbitre de nations puissantes, lointaines, de leur glaive. Voilà un rêve, voilà un souhait qu'on voudrait vraiment voir aujourd'hui se réaliser. De leur glaive, les hommes forgeront des royaumes. De leur lance, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'homme n'apprendra plus la guerre. Mes frères et mes sœurs, regardez autour de vous. Les enfants, des jeunes garçons de 10 ans, même moins, apprennent comment faire la guerre, apprennent comment tuer. Dans le royaume de Dieu, lorsque le Christ sera ici, ces jeunes garçons, ces jeunes filles, nous tous, quel que soit notre âge, nous apprendrons comment procurer la paix, comment vivre en paix. Comment respecter les uns les autres? Comment apprécier la parole de Dieu? Comment vivre afin que non pas seulement nous soyons heureux et que le monde entier soit heureux. Je n'ai pas pu terminer ce que je voulais terminer avec le sermon sur la montagne, mais j'ai au moins couvert une grande partie des 8 sentences. Mes frères et mes sœurs, lisez la Bible. Ayez faim et soif de la justice divine, car c'est ainsi seulement que vous arriverez à être enfants de Dieu.